Dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Extraordinaire, extraordinaire. Il était un peu plus de 18h ce jeudi soir dans le métro parisien quand j'ai vu une personne sourire. Quoi ? Mais qu'est-ce que vous dites ? Comment ça, vous me croyez pas ? Bon, mais je vois qu'on peut pas vous avoir comme ça. Hein. On a en effet l'impression que depuis longtemps, les Parisiens et plus globalement les Français ne sont jamais ou très rarement de bonne humeur. Franchement, hein, au lieu d'augmenter les taxes déjà existantes, le gouvernement devrait décréter de nouvelles lois qui sanctionneraient d'amende ceux qui sont de mauvaise humeur. Bon, avec les manifestations qui s'ensuivraient et les verbalisations pour défaut de bonne humeur, il y aurait de quoi combler un peu le déficit budgétaire actuel. Hein. Non bon, admettons que l'on prenne une mesure préventive hein, plutôt que punitive. Il faut alors trouver l'origine de ce malaise. Alors, pourquoi on fait la tête en fait ? Nous n'avons pas 4 heures pour en discuter, mais on peut peut-être s'accorder sur que c'est la pression que l'on subit au quotidien due à notre rythme de vie. Regardez, vous qui nous écoutez en voiture, faites le test. Quand le feu devient vert, attendez 5 secondes avant de démarrer. Que se passe-t-il ? Eh oui, ça klaxonne à tout va. Et de la même manière, combien d'usagers du métro pensent que le signal de fermeture des portes est un signal de départ de 100 mètres, au lieu de tranquillement rejoindre le quai et attendre 3 minutes le prochain ? Anecdotique ? Oui, sûrement, mais on peut quand même se demander comment on en est arrivé là. Alors, une solution ? Eh bien, vous savez quoi ? En cette journée mondiale du rhinocéros, comment ne pas citer un extrait de cette pièce de Gene Ionesco ? Vous voyez tout en noir, vous allez devenir neurasthénique. Lorsque vous serez tout à fait rétabli de votre choc, de votre dépression, et que vous pourrez sortir, prendre un peu d'air, ça ira mieux. Vous allez voir, vos idées sombres s'évanouiront. Voilà, pour prendre l'air, quoi de mieux que le camping ? Et ça tombe bien, c'est jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Bienvenue !
Radio Camping Paris. Du lundi au jeudi, cet été, de 19h à 20h.
Vous rendre joyeux et de bonne humeur, c'est le but de nos invités ce soir. FGO Barbara, vous connaissez ? C'est un espace dans le quartier de la Goutte d'Or, dédié aux musiques actuelles et aux découvertes. On recevra Lucie Brugier vers 19h35 pour en parler. Nous aurons aussi des chroniques de Quentin et d'Elsa pour égayer cette émission. Mais dès à présent, nous allons parler du Festival Île-de-France, festival qui fête en ce moment ses 40 ans. Depuis le 3 septembre et jusqu'au 9 octobre, ce sont plus de 33 concerts programmés dans 29 lieux partout en Île-de-France. Au programme, musique du monde et actuelle, mais aussi musique ancienne, baroque, classique et contemporaine. Pour en parler, nous recevons ce soir Olivier Delsalle, directeur du festival, Abby Bachour, conseiller en programmation pour les musiques actuelles du festival, et Vladimir Cagnolari, du Bal de l'Afrique Enchantée. Ce sera le dernier concert, le concert de clôture du festival, le 11 octobre, au Trianon. Bonsoir messieurs.
Ce sera le 9, ce sera le 9.
Bonsoir, bonsoir.
Le 9, pardon.
C'est
le 9.
Pas grave,
mais bonsoir. Bonsoir. Avec moi également ce soir, Erwan de Radio Campus Paris. Bonsoir Erwan.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors le Festival Île-de-France se déroule dans plus de 29 lieux, hein, comme le Théâtre Montansier à Versailles, à La Cigale, au Trianon, mais aussi dans des lieux comme des églises ou des abbayes. Comment ça se passe pour organiser des concerts dans des endroits aussi variés et quels nouveaux lieux seront accessibles cette année par rapport aux dernières années ?
Alors, Olivier. C'est à moi. C'est à moi. Effectivement, comme vous l'avez dit, le festival, c'est un festival avant tout itinérant. Et donc, on renouvelle nos lieux tous les ans, chaque année. Il est conçu comme un voyage, en fait, un voyage à la fois géographique, puisqu'on voyage dans toute l'Île-de-France, en facilitant la circulation. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, il y a des bus depuis Paris, j'insiste, puisque c'est des
détails pratiques. Parce qu'on va aller assez loin, on va aller jusqu'à Créteil.
Vous allez assez loin, vous allez jusqu'à Nangy, vous allez jusqu'à Magny-en-Vexin, vous allez jusqu'à Méréville.
Et donc, du coup, vous accompagnez les
publics. On accompagne toujours le public sur ces lieux. Et puis c'est un voyage musical effectivement très, très large, hein, puisque comme vous l'avez dit, on va du Moyen-Âge qu'à la création contemporaine. Et chaque année, on choisit les projets en fonction des lieux ou des lieux en fonction des projets. En fait, on a une programmation, une production qui est un peu différente des autres festivals, parce qu'on a cette alchimie entre le lieu et les concerts. Et on considère le lieu finalement comme une partie intégrante de la proposition artistique.
Mais est-ce que vous voulez faire un concert dans un lieu et vous allez chercher un artiste qui irait bien avec ce lieu, qui serait d'accord d'accord ou d'accord pour venir, ou est-ce que ben vous avez un artiste et ben on va essayer de trouver un lieu pour le mettre assez original et vous cherchez le lieu
dans
après.
Ça va dans les deux sens en fait. On a quelqu'un dans l'équipe qui repère les nouveaux lieux sur Paris ou sur la région parisienne et qui va me dire bah, tiens cette église là elle vient d'être restaurée ou cette grange ou ces lieux industriels vient d'être mis voilà en ordre de marche et on va essayer de trouver le projet artistique qui va le mieux correspondre à ce lieu, ou alors moi j'arrive avec un projet artistique et on va chercher le plus en adéquation, le lieu le plus en adéquation.
Et quel genre de projet artistique colle à un événement organisé dans une église ou dans une abbaye? Qu'est-ce que vous voulez faire passer à travers ce choix-là?
Alors, dans les églises, c'est un sujet un peu particulier parce qu'on est souvent contraint d'y faire que des répertoires sacrés, mm-hmm. sauf s'il a été désacralisé. Dans ces cas-là, on pourrait faire un répertoire profane. Mais finalement, on est dans des lieux de proximité par rapport à la population francilienne. Et je crois que c'est ça aussi notre avantage ou notre atout. C'est-à-dire que notre public est un public très, très mixte. Hein. Il vient de toute la région. Il vient aussi de l'endroit, bien sûr, où on s'installe. Et le fait d'organiser un concert avec des artistes souvent une réputation au moins nationale si ce n'est internationale, qu'on voit souvent dans les grandes salles à Paris, le fait de les mettre dans un lieu de proximité, un lieu qu'ils connaissent, et bien ils vont franchir beaucoup plus facilement la porte et du coup on va avoir un public aussi qui est beaucoup plus peut-être plus varié, plus diversifié que dans une salle parisienne,
public qui ne va pas justement aller, ouais, comme vous le disiez, dans une salle parisienne,
voilà, parce qu'il va avoir surtout par exemple sur les répertoires 10 avant, il faut se méfier des étiquettes, mais sur des répertoires qu'ils ne connaîtraient pas ou sur des répertoires voilà, où on associe ça un peu à la moquette rouge et un protocole, le fait de voir ces musiciens dans leur lieu, dans un lieu qu'ils connaissent, un tarif aussi qui est assez abordable.
Qui est beaucoup plus accessible que justement ces musiques dites savantes qui sont inconvénientes de cette réputation d'être très chères.
Finalement, voilà, ils vont franchir le pas et on va pouvoir comme ça avoir des gens extrêmement mélangés dans une salle. On a des gens qui vont sortir d'un concert avec une analyse assez pointue du concert, qui viennent là parce que c'est tel programme, parce que c'est tel interprète, et puis aussi des gens qui viennent là en totale découverte, et c'est cette mixité qu'on aime beaucoup.
Oui, alors la journée du dimanche 4 septembre, 3 septembre, donc le festival s'est ouvert avec une journée spéciale brésilienne. Oui. C'est un thème que vous choisissez, qui change chaque année. Alors comment vous choisissez votre thème?
Alors en fait cette année, on a effectivement tous les ans, alors on n'a pas d'unité de temps comme vous l'avez dit, parce qu'on est sur 6 semaines, pas d'unité de lieu et pas d'unité de répertoire. Donc finalement on va avoir une thématique tous les ans et chaque concert va venir en illustration de cette thématique, et ça va nous permettre aussi de croiser les publics, de mettre les répertoires un peu en dialogue. Alors cette année c'est un peu particulier parce que c'est nos 40 ans et on a des rendez-vous tout au long de l'édition où on va s'attacher à un thème qui a marqué un peu l'histoire du festival. Donc on a ouvert avec la lusophonie parce que les artistes lusophones ont toujours été très présents dans la programmation, que ce soit en musique classique ou en musique dite traditionnelle ou musique actuelle. Et puis comme ça, tout au long des 6 semaines du festival, on va avoir des rendez-vous. On a bientôt un rendez-vous sur le Caire par exemple, où on va avoir à la fois Jaïda Webe à Fontainebleau qui va nous chanter les grandes voix du Caire des années 30-40 et qui va nous replonger dans tout cette capitale culturelle, et en regard, on va avoir une soirée au Divan du Monde qui nous présente la scène contemporaine du Caire.
Justement, vous parliez de musique actuelle. Habib Achour, vous, c'est un peu votre rôle, vous êtes conseiller en programmation pour le festival, et particulièrement sur les musiques actuelles, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et sur cette journée, par exemple, qui s'est passée spéciale dédiée à la lusophonie et au Brésil, qu'est-ce que vous avez amené là-dessus? Est-ce que ça vous a amené une connaissance en artistes contemporains, brésiliens, etc.?
Alors pour le coup, c'est vrai qu'on a une définition très large du sens des musiques actuelles au Festival d'Île-de-France, mais on partage la programmation Olivier et moi, et cette journée d'ouverture, c'est Olivier qui la programme. Donc je laisserai un peu développer sur le thème de Sao Paulo et de la musique, des musiques actuelles.
Et vous intervenez sur d'autres...
J'interviens sur d'autres sens. On aime beaucoup l'idée que les musiques qui viennent du monde au festival peuvent être tout à fait des musiques actuelles, pas forcément des musiques traditionnelles et des musiques du monde. Et c'est un petit peu, je pense, ce qu'a fait Olivier avec ses groupes, avec un groupe comme Meta Meta, qui est un groupe totalement actuel pour le coup, mais plus qu'actuel, qui est très très important sur la scène.
Qui vient de sortir un magnifique album. En fait, la journée de Sao Paulo, elle était... finalement d'aborder le Brésil d'un an, sous un angle un peu différent de ce qu'on voit du Brésil habituellement, où on est toujours un peu resté à la MPB, un peu resté sur Rio, un peu resté sur Salvador de Bahia. On a un peu délaissé cette scène musique actuelle de Sao Paulo, et l'idée dans ce parc du domaine de Villarceau, c'était d'avoir quatre scènes et de faire tout un parcours musical tout au long de l'après-midi avec des esthétiques musique actuelle mais très très diversifiées, de manière à avoir un peu ce qu'on pourrait appeler une carte postale sonore de cette ville.
Alors, le samedi 1er octobre, vous organisez un ciné-concert au théâtre de la Piscine à Châtenay-Malabry. Mmh. C'est quoi un ciné-concert ?
Un ciné-concert, c'est l'accompagnement en live d'un film muet. Et là, en l'occurrence, c'est avec un orchestre symphonique, puisque ça sera l'orchestre de National d'Île-de-France qui viendra accompagner Les Temps modernes de Chaplin, dont on fête cette année les 80 ans.
D'accord. Et donc, pourquoi avoir choisi ce film spécialement ?
Alors, parce que c'est un anniversaire, donc c'était assez marrant de faire ce petit clin d'œil. Et puis aussi parce que Les Temps modernes a une actualité particulièrement criante quand on voit le propos du film. Et puis, pour la petite histoire aussi, c'est un des premiers films, je crois, où on entend la voix de Charlot. Voilà. Et c'est un film qui pose toujours et encore un certain nombre de questions qu'on lié au sens du travail, au rapport du collectif, etc. etc.
D'accord. Mais bon. Alors, mercredi 5 octobre seront réunis sur scène Fred Palem et Arnaud Robotini, alors qui ne font pas vraiment le même genre de musique. L'idée, c'est d'amener les gens à se tourner vers d'autres groupes. C'est des façons de faire de la musique ou d'écouter de la musique qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter, ou c'est simplement mélanger... les musiques.
Cette soirée, pour le coup, on l'a mis dans ce qu'on appelle les musiques actuelles, parce que les musiques actuelles, c'est pas un genre prédéfini, c'est une approche plutôt des artistes. Donc l'approche de Fred Palem, elle est similaire à l'approche de Robotini. C'est une approche d'expérience, c'est une approche où qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui d'un big band ? C'est la question que se pose Fred Palem, qui lui dirige un big band. Il joue des musiques de films des années 70 qui sonnaient super kitsch il y a 10 ans, qui aujourd'hui sont particulièrement...
Qui sont à la mode voilà. De tous les côtés.
Ouais, exactement. Et Robotini, c'est un personnage qui dépasse la musique et qui a une allure, qui a une...
C'est quelqu'un de très impressionnant à voir.
Voilà, qui est quelqu'un de très impressionnant, qui mélange d'énergie, d'élégance, un côté dandy, très, très viril. Palem, il a ce petit côté-là aussi, et j'aime bien cette confrontation de deux personnages. Et je pense que c'est ça que le public va trouver là. Que le public vienne, parce qu'à à l'origine, il est plutôt amateur de jazz ou plutôt amateur de rock ou d'électro... peu importe, on va retrouver là deux personnages qui, je pense, vont convaincre ce même public.
Voilà, ben alors Fred Palem n'est pas ici avec nous, mais je vous propose quand même de l'écouter tout de suite sur Radio Campus Paris.
Thank you.
C'était Plurabella's Walk de Fred Palem et le Sacre du Tympan sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Radio Camping jusqu'à 20h.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Fred Palem que vous retrouverez le mercredi 5 octobre dans le Festival Île-de-France dont nous parlons avec Olivier Delsal, Habib Achour et Vladimir Cagnolari. Et justement Vladimir, je me tourne vers vous,
oui.
Car vous faites partie du Bal de l'Afrique Enchantée hein, qui sera le concert de clôture le 9 octobre. Hein. Dimanche 9 octobre, alors c'est quoi un peu ce festival de clôture ?
Alors le concert du Bal de l'Afrique Enchantée, en fait le principe c'est on fait revivre aux spectateurs et de tous âges parce que c'est vraiment un spectacle qui est accessible à tous. Bien souvent il y a des gens qui viennent avec leurs enfants et on a décidé justement avec le Festival d'Île-de-France de le faire l'après-midi, le dimanche après-midi pour que les gens puissent venir avec leurs enfants et même avec leurs grands-parents s'ils ont envie parce que c'est vraiment ouvert.
À toute la famille.
À toute la famille, voilà. Et en fait l'idée c'est vraiment de reconstituer à la fois l'ambiance des dancings africains des années 60-70, c'est-à-dire l'époque en Afrique où il y avait tous ces grands orchestres après les indépendances et un peu partout sur le continent, ces grands orchestres avec des sections de cuivre ont poussé. Et c'est là aussi où se sont développées toutes ces musiques qui étaient à la fois d'inspiration traditionnelle mais moderne parce qu'avec des instruments importés d'Occident. Et il y a vraiment des trésors, que ce soit en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Mali, au Sénégal, etc. Il y a vraiment des trésors dans ces époques-là. Après, les choses ont un petit peu évolué parce que les synthés sont arrivés. Donc, il y a une espèce d'âge d'or et c'est cette ambiance-là qu'on a envie de faire revivre. C'est pour ça qu'on reprend essentiellement des grands tubes, je dirais, de ces années-là. Et puis, bien sûr, on déborde un peu sur aujourd'hui. Et l'idée aussi, c'est ce répertoire. Moi, mon collègue Soro Solo et puis la nièce Hortense Vol qui nous accompagne, nous, on est un peu MC, si vous voulez, et on raconte un petit peu des histoires sur ces chansons, entre les morceaux, parfois dans les morceaux, de manière à expliquer un petit peu qu'est-ce qui a motivé leur sortie, quel était le contexte, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous. Parce que les musiques africaines, elles sont bien souvent des documents qui permettent de raconter des choses. Parce que dans les chansons, souvent, on prend ça comme on ne comprend pas les paroles. Oui. Des trucs esthétiques qu'on peut aimer ou pas. Mais à l'intérieur, il y a toujours beaucoup de choses qui sont racontées. Et donc, on essaie aussi de faire comprendre la signification de ces chansons en les liant les unes aux autres, comme ça, pour raconter une histoire. Et puis, et je finis parce que je suis long. Mais en tout cas, ce 9 octobre-là, ça sera même un bal assez spécial. Puisque du coup, on va avoir des invités qui vont venir partager la scène avec nous. Donc il y aura Mamani Keita du Mali et puis il y aura aussi Baloudji, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un rappeur congolais de Kinshasa et qui vit à Bruxelles maintenant, enfin en Belgique, et qui lui a quelque chose de beaucoup plus rap et électro. Et puis Yuri Buenaventura, le Colombien, qui lui est un salsero. Donc tout ça devrait bien se mélanger et la fête devrait être belle. Je vous donne des flyers, tenez. Ah
petite promo en direct.
En fait, ça s'appelle une convocation. Soirée de rentrée aussi, le 1er octobre.
Voilà.
Voilà. Ben, alors le samedi 8 octobre, je crois, c'est le Liban que vous mettrez à l'honneur, hein, à la Cigale, avec le groupe Mashrou Leila et le pianiste Bachar Mar Khalife. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de ces musiciens ? Comment est-ce qu'on découvre des talents qui viennent du Liban ?
C'est peut-être vous, Habib, qui avez plus travaillé sur cette soirée-là ?
Oui, c'est moi qui ai travaillé sur cette soirée-là. Comment c'est un petit peu, nous on est toujours plongé dans la musique, dans les sorties, donc
parce que c'est vrai que pour vous c'est finalement assez évident d'avoir ces artistes que vous travaillez tout le temps dedans, mais oui. On a un peu tendance à penser que tout ce qui concerne la scène d'Amérique du Sud, la scène qui est en Afrique, a du mal à arriver jusqu'à chez nous en Europe et à être pour les auditeurs on a l'impression que les réseaux de distribution intéressent un petit peu moins.
On peut dire qu'elle a peut-être du mal à toucher un grand public, oui, voilà. Ça certainement, mais elle a pas de mal à arriver
non,
à
elle
Paris,
arrive, elle arrive, mais elle
qui est vraiment
a
la ville, mal à l'une des villes phare des musiques du monde au monde. Donc c'est une ville où on a la chance de pouvoir voir énormément de musiciens qui viennent de partout. Il y a des réseaux professionnels qui font que nous sommes au courant de ce qui sort un petit peu partout dans le monde. Donc on est un espèce de filtre entre les productions et le public. Et donc on met tout ça dans notre passoire, on écoute, puis après on se dit tiens, on va faire écouter ça. Et puis pour les médias, pour vous c'est pareil, vous recevez des tonnes de disques ou de musique, et puis vous...
Ici, à Radio Campus Paris, on va dire qu'on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là, au niveau de la programmation musicale, mais si on peut se pencher un petit peu sur les autres médias, c'est pas toujours aussi évident.
Non, bien sûr,
sûr. Pour les musiques du monde.
Non, mais en tout cas, pour ce qui concerne Mashrou Leila, c'est quand même un groupe qui a beaucoup fait parler de lui, y compris ici. Ils ont quand même fait des émissions médiatiques assez à grand public. sur des chaînes forte audience. C'est le groupe un petit peu choc du monde arabe en ce moment, parce que c'est le groupe de rock qui chante en arabe et qui bouleverse les foules, qui déchaîne les passions. C'est un groupe qui raconte le quotidien de la vie à Beyrouth, mais qui ressemble beaucoup à celle du Caire ou de Casablanca. Donc il incarne la jeunesse du monde arabe aujourd'hui, qui ne répond pas forcément aux clichés qu'on en a quand on vit en Europe. Voilà, donc c'est tout ça qu'il raconte, et c'est ça qui fait que au début, grâce au soutien de la communauté libanaise, ils ont commencé à émerger, puis après le monde arabe s'y est mis, puis maintenant mais ils ont un public partout où ils vont dans le monde, ils remplissent les salles à Berlin, à Paris, le concert est complet depuis 2 semaines. C'est vraiment un gros événement de les avoir à Paris, on est très fiers de les avoir en exclusivité au festival.
Oui, alors on voit depuis le début de l'émission, c'est un véritable voyage. On a parlé du Brésil, de l'Afrique, du Liban. Et le festival propose des artistes qui appartiennent à des genres très différents. Quelle est la ligne directrice un petit peu et le point commun qui réunit tous ces artistes dans le festival?
La ligne directrice, je pense que c'est surtout la découverte d'une part et le dialogue d'autre part. C'est-à-dire que finalement, c'est à travers, on va dire, 7 siècles de musique, c'est d'établir des filiations, c'est d'établir des mises en regard et de voir comment ces musiques ont pu dialoguer. Il y a beaucoup de musiques que l'on programme qui ont voyagé, qui ont des racines européennes, qui sont parties au loin ou au contraire qui sont venues loin, qui sont venues ici, qui se sont mélangées, y compris dans les musiques savantes. Les musiques populaires ont beaucoup influencé les musiques savantes. Donc en fait, le festival, c'est vraiment ce lieu de rencontre et de création, puisque finalement, sur les 33 dates, plus de la moitié sont des concerts inédits ou des créations qui sont réalisées à la demande du festival.
Donc c'est fait exclusivement pour le festival.
Oui, totalement.
D'accord. Alors dans le festival Île-de-France, il n'y a pas que des concerts, hein. Il y a aussi du théâtre et des visites culturelles. D'ailleurs, voilà ce qu'on peut lire sur la page anglaise de votre site. Chaque année, entre 20 et 25 000 personnes se lancent dans cette grande chasse au trésor culturel partout en Île-de-France. Qu'entendez-vous par chasse au trésor culturel ?
Chasse au trésor, ça veut dire qu'on va découvrir peut-être des pépites du territoire francilien, alors que ce soit des parcs, que ce soit par exemple au domaine de Villarceau où on ouvrait la saison, que ce soit des châteaux, que ce soit des églises, que ce soit des lieux. Voilà, où peut-être on n'a pas trop l'habitude d'aller parce qu'on est à Paris, parce qu'on a du mal à franchir le périphérique, ou parce qu'on est en Essonne et on a du mal à aller dans le Val d'Oise. Et donc finalement, l'idée de ce festival, c'est de se découvrir cette région. On a peut-être tendance plus à se revendiquer auvergnat, breton, normand que francilien. Et l'idée, c'est de montrer que toute la richesse de cette région, l'identité de cette région, d'aller à la découverte aussi de ses habitants, parce qu'on donne aussi pas mal la parole aux associations locales. Et donc finalement, c'est voyager, c'est parcourir un territoire et donc se l'approprier.
Et au-delà de la découverte du territoire, comme on en parlait avec le Liban, avec le Brésil, tout cela, il y a aussi une envie de faire tomber des barrières dans les esprits du public francilien sur des zones sur lesquelles il y a beaucoup de clichés.
Des zones géographiques, des répertoires. Oui, bien sûr. Et puis également sur les répertoires. En fait, toute l'idée du festival, c'est qu'on peut y rentrer par son répertoire de prédilection, par ses goûts premiers, on va dire. Moi, j'aime la musique brésilienne, je vais venir à Villarceau. J'aime la musique renaissance, je vais aller à Brunois. Mais après, tout notre rôle, il est d'emmener ailleurs, c'est-à-dire que tous ces gens, au bout d'un moment, nous fassent confiance et nous disent bah tiens, ça a l'air pas mal et je vais aller voir aussi. Et à partir de là, c'est toute cette circulation en fait qui nous intéresse.
D'accord, il nous reste 2 minutes et j'aimerais pour en finir cette interview, après 40 ans de festival, est-ce que vous pouvez chacun nous donner un moment marquant du festival?
Parce qu'on l'a pas dit, mais le festival fête ses 40 ans cette année, c'est ça?
Oula, vous avez plus d'expérience que moi, les gars.
Il y a longtemps que vous travaillez dans le festival, chacun au sein de...
Moi, j'y travaille pas, je viens juste...
Oui, c'est vrai, vous venez partager avec vos
potes. Peut-être
que vous connaissiez le festival avant.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Moi, ça fait une quinzaine d'années. Après, des souvenirs, il y en a plein, bien sûr. Il y a la première fois, peut-être, qu'on a investi le Cirque d'Hiver, qui a un lieu magique à Paris. On s'est installé en 2001, où on fait des créations tous les ans. On y est encore à partir de demain avec Thomas Dutronc sur un hommage à Django Reinhardt jusqu'à dimanche soir.
Tu vas être génial, allez-y.
Et donc, voilà, par exemple, l'hommage qu'avait fait Angélique Kidjo à Myriam Makeba, pour moi, reste un des très, très, très beaux temps du festival. Voilà, mais là, depuis le début de l'édition, c'est-à-dire depuis 3 semaines, on vit des moments très forts, et notamment sur les balles, qui sont aussi des moments nouveaux pour nous. On ne faisait pas de balles jusqu'à présent. Alors, il y avait l'idée, de, bien sûr, de célébrer en dansant, voilà, en faisant la fête les 40 ans. Il y a aussi l'idée de faire société dans un bal. C'est-à-dire, c'est un lieu de rencontre qui est un peu, je pense, assez fortement à l'image du festival. Donc, on a eu des très beaux moments. On aura des très beaux moments avec le bal de l'Afrique enchantée. On va avoir des très, très beaux moments avec l'ultra-bal de Fixie au Lila, par exemple, qui est un lieu génial et surtout un groupe super. Donc venez au Lila voir l'Ultra Ball et avant d'aller à l'Afrique Enchantée.
Moi j'y serai.
Eh bien merci Olivier, Habib et Vladimir d'avoir pris du temps ce soir pour venir nous voir sur Radio Campus.
Merci à vous.
Et puis voilà, allez au Festival Île-de-France, hein, c'est jusqu'au 9 octobre partout en Île-de-France. C'était Nicolas Cruz sur Radio Campus Paris avec Cumbia del Olvido.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
Et tout de suite, on va changer d'ambiance. En effet, Quentin de la rédaction s'est plongé dans l'univers PNL, le phénomène rap de l'année. Bonsoir Quentin.
Oui, bonsoir Julien, bonsoir à tous. En effet, aujourd'hui, on va tenter de décortiquer ce phénomène, la vague PNL qui a tout chamboulé depuis vendredi dernier dans le rap game français, avec la sortie de leur album très attendu, Dans la Légende.
Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, souris au gardien. Ego, y'a mon clé dans la reine. S'ils sont retournés comme papa. J'parle pas trop, j'me fous du rappeur. J'négocie ta Roma. Tes rappeurs, c'est tous des tapas.
Alors, oui, à la première écoute, j'ai fait la même tête que vous. Et pourtant, en une année, les deux frères de Corbeil-Essonne auront sorti 3 albums. Le phénomène ne fait que grossir. Alors, pourquoi PNL plaît autant et à tout le monde? Notons quand même qu'ils étaient à l'affiche du festival Wheel of Green, le festival de l'été le plus bobo de Paris, et qu'ils y ont fait un carton. Et que même France Culture a diffusé 2 reportages sur le groupe. Et pour diffuser du PNL sur Culture, faut en avoir dans le pantalon. Pourtant, sur la forme, rien de bien nouveau. Des instrus planantes, des voix vocodées et un travail justement sur les voix des plus précis.
Je recrache le mort.
Alors pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi PNL est sur toutes les bouches? Sur le fond, PNL, c'est avant tout la négation totale de l'égotrip à la Booba ou à la Kaaris. Loin de leur clash, entre guillemets, le duo de la cité des Tarterets se pose en observateur de leur vie de banlieue, entre vente de drogue comme seul moyen de remplir leur frigo et ennui en bas des tours. Dans plusieurs de leurs titres, ils ont conscience de l'aspect éphémère de leur célébrité et savent qu'un jour ou l'autre, le buzz ira voir ailleurs. Ce qui est marquant chez eux aussi, c'est leur mutisme. Les deux rappeurs n'ont fait aucune apparition médiatique, ils ont annulé l'émission Planète Rap sur Skyrock qui leur a été consacrée et n'ont jamais parlé publiquement. Alors ce n'est pas une stratégie inédite, on se souvient de Daft Punk, Fauve, Mylène Farmer ou encore Swagman qui restaient dans leur anonymat. Dans le rap, l'exemple qui me vient à l'esprit est celui de Stupeflip qui pour le coup avait une stratégie de communication assez particulière, souvenez-vous.
T'es un vilain garçon, alors une question de Thierry Ardisson.
Toi t'es une grosse salope.
Ta gueule.
Vous affirmez même avoir mangé de la cervelle d'enfant.
C'est pas ça, c'est essayer de garder un minimum de contrôle sur ce que j'ai envie de dire.
Pas d'espace, tout va très vite, tout va très vite.
Alors on va découvrir.
Maintenant tu peux te faire gicler mon vieux du jour au lendemain. Ah, allez hop tu dégages. Ah, ouais. Pas assez vite. Ah, pas assez vite, pas assez vite. Le vide fait peur. Le vide.
On pense qu'on appelle l'infirmerie tout de suite.
Voilà, Stupeflip sur Nova et WeFM en 2001, l'absence de communication ou la négation de la communication pour créer une aura de mystère. Mais l'univers PNL ne s'arrête pas là, il est renforcé par leurs clips envoûtants à la frontière de l'amateurisme et du do-it-yourself. Leur série de clips totalise plus de 50 millions de vues chacun sur YouTube. Et chaque sortie est attendue comme le dernier épisode de Game of Thrones par leur fanbase. C'est d'ailleurs exactement une problématique actuelle, les modes de consommation de la musique évoluent, la façon de la faire aussi. On adopte alors une stratégie autant sonore que visuelle. Chez PNL, le style s'impose assez vite. Jogging et lunettes de soleil en bas des tours. Un découpage soigné, plan large, plan drone. L'atmosphère est froide, métallique, humide. On est loin des codes embarrassants et ridicules qui étaient devenus une habitude au sein de la production audiovisuelle pour le rap français.
Qui a dit que les blondes étaient toutes des connes? Toutes des connes, toutes des connes.
Qui t'a dit que je serais Claude aussi, je quittais l'école? Quittais l'école, quittais l'école. C'est loin d'y baisser, ça sent la diva.
Voilà, donc, contrairement à Section d'Assaut, PNL se construit sa bulle d'identité et ce n'est ni caricatural ni ridicule, loin de là. PNL, c'est aussi des références à la pop culture, de Nabila la légende de Zelda, les rappeurs transportent leur propre génération avec des références qui parlent à tout le monde, dans le premier arrondissement ou jusqu'à Corbeil-Essonne. Dans La vie est belle, on peut notamment entendre « Ma vie est lourde, aussi lourde que le poids que portent mes paupières, j'ouvre la porte de l'Audi ou bien de l'enfer ». PNL s'inscrit dans cette mouvance du rap français qui décide de nier les complexes d'infériorité face au code américain et de forger dans la mélancolie et la violence un nouveau rap. C'est exactement ce que certains observateurs ont appelé le « cloud rap » ou bien le « rap 2.0 ». Dans le même registre, on trouve TDF, copie conforme de PNL, mais aussi ODZN qui depuis 2 ans squatte les scènes des festivals d'été.
Saxophone, phonographe, grave de fou, foule de gens, molécules, autonome, déambule, bulle de 16, mini-jupe, hypercute, super cul, cul de sac, sac à puce, puce chemin, main au cul, cul de jatte, claque de pute, plutôt petit, titillé, yéman, titillé, je fan, sautillé, tu planes, microphone, fan de toi, toi t'es con, qu'on est bien, bien iman, mal de vie, virevolté, t'es sucré, crémation, patienté, fiancé chic, bric à brac, claque et pique, kick et le beat, beat, pathétique, tic, tête à claque, j'braque, patatrac, trac, face à toi, j'craque, faux semblant, blanc.
Ainsi, bien loin des égotripes énervées qui sont devenues monnaie courante sur les ondes de nos radios, des groupes d'un nouveau genre décident de ne plus être dans la contestation, mais viennent simplement faire le constat d'une jeunesse désillusionnée. A voir dans l'avenir si PNL saura renouveler le style qu'ils ont eux-mêmes imposé ou bien vont se morfondre dans les vocodeurs. On se quitte avec Dans la légende de PNL. Restez à l'écoute de Radio Campus. Radio Camping revient dans quelques instants.
dans la tour, je me rappelle, les cafards, les bacs, les Yankees, à l'appel, à l'appel. Aujourd'hui, Hamdoulé, plus besoin de le faire. Le monde, Chico, Chico, y'a le buzz tant qu'il est chaud, on va le faire. Amiga, amiga, amigo, amigo. Pas te dis, au bon char, on y va, on fait pas de caprice, non.
Eh bien, merci pour cette chronique, Quentin. Il est 19h38, c'est Radio Campus Paris.
Radio Camping Paris.
Connaissez-vous FGO Barbara? C'est un espace de plus de 2500 m² situé dans le quartier de la Goutte d'Or et dédié aux musiques actuelles et à la découverte. Pour en parler avec nous, je suis heureux de recevoir celle qui vient de me rejoindre en studio. J'ai nommé Lucie Brugier. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Lucie Brugier, que vous connaissez bien hein, si vous écoutez Radio Campus régulièrement, en effet, elle est présente dans On veut du solide sur cette même antenne. Mais ce soir, elle vient nous présenter l'ouverture de saison à FGO Barbara, qui se déroule jusqu'à samedi et qui cette année sera placée sous le signe de la découverte et de l'insolite. C'est-à-dire, Lucie ?
Mais en réalité, donc c'est ma double personnalité en effet. Et du coup, j'ai en tant que chargée de communication d'un lieu qui est ouvert en 2008 et qui est vraiment qui se veut être un lieu des possibles, un lieu où les artistes peuvent expérimenter, peuvent se développer. On fait beaucoup d'accompagnement de groupe notamment. Et en fait, cette ouverture de saison cette année, on l'a un peu voulu comme un petit festival avec vraiment tout ce qui nous faisait envie de montrer tout ce qu'on peut faire, tout ce que les artistes développent chez nous. Donc on a eu hier un très beau concert à l'église Saint-Bernard, qui est l'église qui est juste derrière notre salle de concert, et qui du coup a accueilli Facteur Chevaux, qui est un groupe qu'on accompagne à l'année donc dans le développement de son projet, et Cubanks, qu'on avait envie de proposer. Donc c'était chanson folk. Et en fait, Facteur Chevaux, ils ont fait déjà dans le sud la tournée des églises. Enfin, bon, c'est un projet complètement.
On posait justement la question à nos invités précédents qui avaient également des concerts organisés dans des églises. On a eu plein de concerts dans des églises. Pourquoi avoir choisi là, dans ce cadre-là, d'avoir fait ? C'est par rapport aux artistes qui, comme vous l'avez dit, qui avaient déjà qui aiment ce genre d'endroit, peut-être.
Ouais, effectivement, ce projet-là se prêtait beaucoup, vraiment très bien, puisque c'est beaucoup d'harmonie vocale, donc ça prend une toute autre dimension avec l'acoustique d'une église, mais aussi parce que l'église Saint-Bernard, elle est comment dire, elle est symbolique, parce qu'elle a accueilli les sans-papiers à l'époque, donc ça fait un petit moment, donc c'est toujours un lieu qui a apporté ce symbole aussi, et nous on avait aussi envie de dire que bah, aujourd'hui c'est quelque chose qui est très présent dans le quartier de la Goutte d'Or, à la chapelle aussi. C'est des questions qu'on a envie de poser, on a envie de faire un peu des petits accents comme ça, aussi sans dire que c'est des clins d'œil, mais voilà, poser un peu cette question-là. Et justement, bah, le côté Cubanks, qui était plus de l'ambiance qui allait jusqu'à la techno quand même, avec des lumières, enfin, c'était absolument incroyable dans l'enceinte de l'église. C'était aussi voilà, de se dire qu'on pouvait mettre toutes les musiques dans tous les lieux, en fait, qu'il faut investir l'espace public. Le père Livio, qui nous a donc laissé les clés de son église une soirée, est très ouvert à ça, et en fait, justement, considère ça, la musique, comme une nourriture de l'âme, comme quelque chose de spirituel aussi. Donc c'est vraiment voilà, essayer d'ouvrir les esprits. C'était une soirée gratuite, donc qu'elle soit ouverte à tous ceci.
Les gens viennent beaucoup dans les églises écouter des concerts.
Oui, effectivement, le côté un peu unique de la performance. Et puis pour les artistes, c'est vrai que c'est assez chouette aussi à vivre. Enfin, là, donc pour Facteur Chevaux, qui était plus de la folk, il y avait une écoute très profonde et vraiment un calme assez olympien. Ils sont déplacés dans le public, puisqu'ils pouvaient se déplacer et avoir la même acoustique. Enfin, pas vraiment la même acoustique, parce qu'il y avait un micro, mais une acoustique intéressante aussi. Et après, il y a carrément des gens qui sont levés, qui sont allés danser devant l'hôtel. Donc c'était vraiment deux concerts, enfin une salle, deux ambiances. C'était assez chouette.
Ça donnait un look vraiment différent à une église que ce qu'on peut avoir en tête d'habitude.
Tout à fait. Et du coup, dans la même veine, enfin, ça va très loin, mais ce soir, on a un bingo avec Rose Vandome et Pounani Jenis.
Vous organisez un bingo ?
On organise un bingo, voilà. Donc là, je pense que mes collègues, parce que FGO, c'est une équipe tout à fait charmante et dynamique, sont en train de mettre ça en place. Ça commence à 19h30, donc là, ils sont en train de faire un bingo. Ils pourront gagner des masques absolument atroces avec des paillettes et un grille-pain. Enfin,
c'est super. Mais alors, entre l'activité d'initiation musique et le bingo, il y a quand même un grand écart, non ? Il n'y aura pas également des artistes à ce bingo pour en faire de la musique ?
Si, tout à fait. En fait, les présentatrices font partie de la salle et c'est un collectif qui organise des soirées je sais pas si on peut dire LGBT, mais du moins ouvertes dans plein de lieux et qu'on avait reçu notamment en vue du Solide, qui sont voilà, enfin qui font des soirées qui s'appellent Mon cul est une autoroute du soleil. Enfin, en fait, c'est un peu le milieu queer si on veut. Et donc, on avait envie de permettre aussi à ce milieu-là de prendre un peu pied dans le lieu, parce que c'est vrai qu'on représente pas forcément ces cultures-là. Cet après-midi, il y avait un atelier de musique électronique avec un producteur de musique qui s'appelle Molécule, qui a fait son dernier album sur un chalutier dans l'océan Atlantique.
Molécule, qui est un artiste qui est assez particulier et qui essaye toujours d'aller chercher un petit peu des sons toujours plus étranges à chaque fois. C'est
exactement
pour ça que ça vous a intéressé de travailler avec lui, ou
oui,
c'est parce qu'aussi il se proposait pour pouvoir...
Après, c'était aussi par contact et par personne. Il n'était pas très loin de nous, il n'était pas inatteignable comme peuvent l'être certains artistes aussi. Et il est très ouvert aussi à... Il faut aussi qu'ils aient envie d'avoir une certaine pédagogie, parce qu'ils se sont retrouvés 3 heures en studio avec donc des personnes intéressées par la production en musique électronique un jeudi après-midi. Donc c'est vrai que ça a donné un très beau moment.
Mais comment ça s'est passé du coup? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces personnes?
Alors moi,
qui sont...
j'ai pas passé toute l'après-midi là-bas, mais ils avaient, en plus j'avoue que je suis pas professionnelle en musique électronique.
C'est-à-dire que l'artiste est là pour les accompagner,
voilà,
dans expliquer comment ça fonctionne.
Exactement, c'était vraiment en fait ça s'appelle un Do It Together, et l'idée c'est que les gens fassent les choses ensemble, qu'ils se nourrissent des expériences des uns et des autres, non seulement de l'intervenant, donc qui vraiment anime un atelier pendant 3 heures, mais aussi que les personnes qui posent des questions se nourrissent les unes des autres en réalité, parce que les gens qui développent leur projet, même s'ils peuvent être à des stades très différents, ont toujours intérêt à échanger en réalité, et les artistes à se mettre en connexion, et en réalité on est généralement plus fort à plusieurs que tout seul, que ce soit... aidé par un manager ou par d'autres artistes, parfois ça peut être intéressant aussi de croiser les expériences.
Et là du coup on parlait du bingo qui est ce soir, qui n'est pas encore trop tard pour y aller, c'est ça?
Non, il faut y aller maintenant.
Imaginons que nos auditeurs aient envie de rejoindre, qu'est-ce qu'on peut gagner au bingo?
Il y aura un parapluie transparent, une Barbie avec des cheveux violets, des coups à boire évidemment parce qu'on a un bar avec de la bière artisanale. Et puis, il y aura des places de concert, notamment pour le concert de demain. Parce que du coup, on fait beaucoup d'accompagnement de groupe. Donc, il y aura Petit Prince qu'on accompagne aussi, qui est sur le label Pain Surprise, le même label que Jacques, qui est assez à la mode. Qui, lui, faisait partie du collectif à la base, qui a produit beaucoup d'artistes du label, notamment Grand Soleil, enfin d'autres. Ils ont tous un peu collaboré. Et du coup, il y aura demain soir Claude Violante, qui est plus... de la pop avec des influences années 90 ou New Wave, assez chouette. Et je suis en train de zapper le dernier, Claude Violante, Petit Prince et mince. Je vais vous le dire dans une seconde.
Vous savez quoi? Prenez le temps de la coupure musicale pour chercher ça.
Ah merde.
To see. La nuit tombe doucement pendant que l'on écoute Whitney avec No Matter Where We Go. C'est en Radio Campus Paris. Allez, on a encore une dizaine de minutes à passer ensemble.
Radio Camping Paris. Du lundi au jeudi, cet été, de 19h à 20h.
On est toujours en compagnie de Lucie Brugier pour parler de FGO Barbara. Et avant la pause musicale, vous avez un petit trou de mémoire.
C'est bon, je l'ai. C'était Ménage à Trois, le groupe qui va jouer demain soir avec Claude Violante et Petit Prince. Et c'est un groupe de cracky, c'est de la pop anglaise avec des petits accents R&B. Enfin, c'est très ensoleillé, c'est très plage. Enfin, ça va être absolument un moment merveilleux, quoi.
Eh ben voilà, allez-y, bonsoir. Alors, à FGO Barbara, vous proposez des résidences, c'est-à-dire que vous proposez aux artistes de travailler leur spectacle dans un équipement exceptionnel pendant un an. Quel est cet équipement ?
Alors, effectivement, comme vous l'avez dit au début de l'émission, de l'interview, c'est 2500 m² en tout, donc c'est un gros équipement qui a été vraiment créé à la base pour aider les musiciens amateurs à développer leur projet. Du coup, il y a une salle de concert de 300 places, il y a 6 studios de répète, un studio d'enregistrement, 2 grandes salles de pratique collective et du coup, une grande salle de réunion aussi. On essaye de développer les groupes selon leurs envies, leurs objectifs et grâce à cet équipement et une équipe dynamique et incroyable. Du coup, on a plusieurs dispositifs d'accompagnement qui sont vraiment pour les groupes en développement ou en voie de professionnalisation, avec un gros dispositif qui s'appelle Séquence et un plus petit qui s'appelle Parcours. Et vraiment, ils déterminent avec l'équipe d'accompagnement ce qu'ils veulent faire, leurs objectifs, comment ils peuvent les atteindre. Et après, on leur permet de travailler ou avec les professionnels qu'il leur faut si jamais on n'en a pas, ou avec, avec l'équipe.
Est-ce que votre accompagnement, ce n'est pas juste mettre des salles à disposition, c'est aussi avoir des gens qui sont là, des professionnels qui sont là pour donner des conseils, un avis extérieur sur le travail des groupes ?
Tout à fait. Alors effectivement, ça peut être de la stratégie pure, vraiment sortie de EP comme on fait, ou de la stratégie scénique, ou vraiment à la répétition, optimiser une répétition. En réalité, c'est aussi pour permettre aux musiciens d'avoir un peu plus de capacité de parler parfois avec leurs techniciens ou avec des intervenants extérieurs, pour leur donner aussi des fois plus de crédibilité et pouvoir avancer un peu plus vite. Des fois, on les soutient. Le gros dispositif Séquence, il a carrément une enveloppe. Les candidatures sont en janvier. Et là, il y a carrément un achat de matos, contacter une attachée de presse. Enfin, ça peut être assez ambitieux. Et après, il y a de la résidence carrément d'artistes plus pros. Donc là, c'est de la résidence sur principe un peu basique de résidence. On laisse la salle à dispo. Après, il peut y avoir des concerts de sortie de résidence. Et j'entendais que vous parliez du Festival Île-de-France. On est en partenariat avec eux parce qu'on soutient évidemment leurs actions. Et on fait une résidence de Fred Palem à la fin du mois, dont on a entendu le morceau tout à l'heure avec le Sacre du Tympan, voilà, qui va jouer le 5 octobre.
Mais tout est lié, tout est lié.
C'est incroyable.
Alors justement, comment on peut repérer les futurs talents et se dire parmi un tas d'autres artistes, tiens, bah, lui va réussir ?
Alors, à mon avis, je ne sais pas si ça va forcément être déjà la même personne pour tout chacun. Je pense que pour autour de la table, j'espère qu'on repérera pas les mêmes talents.
On aura un peu des avis différents.
Voilà,
au moins.
Ce serait bien. Mais alors déjà, il y a des playlists des groupes qu'on accompagne qu'on peut retrouver assez facilement sur notre site. Et il y a aussi pas mal de groupes qu'on essaie de faire jouer pour qu'ils puissent rencontrer leur public aussi. Donc, ils sont pas forcément des groupes qu'on accompagne qui font partie des dispositifs actuellement parce que on est un lieu qui date de 2008. Donc, ça a pris du temps aussi. On a accompagné déjà 300 groupes dans des aspects différents de leur développement. Et du coup, on essaye de faire des soirées FGO Lab, donc on programme les groupes qu'on a accompagnés. Là, cette ouverture de saison, il y a la part belle qui est faite aussi aux groupes qu'on accompagne un peu à l'année, ou par exemple l'Impératrice et Songe qui vont jouer samedi, ils sont accompagnés un peu à l'année, ou en résidence, en mise à dispo. Et par exemple, le 6 octobre, c'est pas vraiment des groupes qu'on accompagne, mais c'est une soirée découverte de pop française. Il y a Cliché qui est sur le label Microclimat, qui est hyper poétique, trop beau. Sans Sébastien, ils sont absolument géniaux aussi. C'est plus old school comme chanson, mais c'est vraiment super retravaillé, hyper délicat. Et enfin bon, ça va être merveilleux aussi. Et Guillaume, alors là j'ai peur d'écorcher le nom, Stankiewicz. Et là c'est plus folk, chanson douce aussi. Et ça, c'est le 6 octobre, et par exemple, ça coûte 5-8 euros, ça coûte pas très cher. Et c'est vrai qu'à mon avis, pour savoir quels vont être les artistes de demain, À mon avis, il vaut mieux les voir en live, mais c'est mon avis personnel.
Avis partagé.
Oui, pareil. Alors, vous proposez également des activités. Donc, cela va de la danse au yoga en passant par le théâtre. Oui, donc, ce n'est plus centré forcément musique.
Non.
Et donc, est-ce qu'il y a un intérêt de regrouper plein d'arts différents au même endroit? Est-ce que ça va améliorer l'interaction qu'il y a entre ces différents arts?
Ah ouais, j'entends. Effectivement, c'est un peu notre ambition, c'est d'être aujourd'hui une nouvelle vision de la culture, c'est-à-dire de ne pas être un lieu forcément musique ou un théâtre, forcément de théâtre, et d'être un peu pluridisciplinaire, de permettre aux gens de naviguer d'une activité à l'autre. Alors après, c'est un pari qui n'est pas gagné encore, parce que certains viennent pour un concert, ils n'ont pas forcément le temps de monter au deuxième ou regarder les studios de répétition, ça ne les intéresse pas forcément. Effectivement, c'est ce qu'on essaye de créer comme émulation, d'avoir tout ça dans un seul lieu, et 30 associations à l'année qui développent leurs pratiques, donc effectivement, c'est plus forcément musique, mais c'est toujours un peu artistique. Voilà, on essaie de défendre cette vision de la culture et même qu'elle soit locale aussi, parce qu'on est très ancré dans le quartier de la Goutte d'Or. Les 30 associations qui viennent donner leurs activités, elles sont généralement du 18e ou des quartiers politiques de la ville. Donc c'est aussi une vraie volonté de permettre à des gens de vivre et puis de développer des pratiques artistiques.
D'accord. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite de cette saison?
Ah, il va se passer plein de choses. Alors, comme on le disait au début, on est un peu un lieu des possibles. Donc, notre vraiment motto, c'est la découverte. Donc, on va avoir un festival de musique insolite, improvisée, qui va faire du mapping, du viding, là, bientôt, qui s'appelle le Mire Festival. On va ouvrir un festival de hip-hop qui s'appelle Terre Hip-Hop, qu'on fait en partenariat avec d'autres salles, avec le Canal 93, notamment. Et donc, ça va être incroyable avec... Donc deux rappeurs, un qui s'appelle Dirty Dyke et l'autre qui s'appelle Batty. Enfin, vous pourrez retrouver ça sur notre site internet.
Eh bien, merci Lucie de nous avoir accompagnés ce soir sur Radio Campus Paris.
Merci de m'avoir invité.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Et pour finir cet été en beauté et la dernière de camping, Elsa vient de nous rejoindre pour nous faire un agenda du week-end. Bonsoir Elsa.
Salut Julien. Alors en effet, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais figure-toi que ce soir, c'est moi qui vais vous filer tous les bons plans du week-end. Alors plus précisément, en fait, c'est une sélection des bons plans de Radio Campus Paris, parce qu'il se passe plein de choses ce week-end. Alors tout d'abord, le festival Crac commence ce soir avec le projet Entropia. C'est un projet d'Éric Reynaud et Louis-Philippe Saint-Arnaud de la Société des Arts Technologiques, ce qui vient de Montréal, et la Cornemuse revisitée d'Erwan Keravec. Alors derrière ce jeune festival, le festival Crac, vieux de 4 ans, se cache en fait Babel Productions, Rendez-vous Contemporain, l'ONCEM, ou l'ONCEIM, mais aussi Sonic Protest, qu'on connaît bien à Radio Campus, qui coproduit notamment la soirée de clôture samedi. Mais pour l'instant, on reste donc à ce soir, toujours, le collectif Curie Vavard fête ses 10 ans au Chakirail et à la Villa Belleville. Ça commence ce soir, ça dure 4 jours. Concerts, spectacles, repas et surtout émissions de radio. Radio Campus Paris diffuse d'ailleurs dans quelques minutes l'émission Nola Radio de 20h à 22h. Autre rendez-vous, on en a parlé à l'instant avec Lucie, l'ouverture de la saison FGO Barbara. Avec notamment, demain soir, je crois qu'on fait gagner des places tout pour le fait. Concert de Petit Prince, Ménage à Trois et Claude Yolante. Donc c'est demain à 20h30 à FGO Barbara. Samedi, on sera, quand je dis on sera, c'est Radio Campus Paris, à Culture Hockey. On y sera d'ailleurs samedi et dimanche, les deux jours entiers. Venez nous voir passer sur notre stand, on sera très content de vous rencontrer. Culture Hockey, c'est un village associatif, 6 scènes, des installations et 1 milliard de bons plans, évidemment. Samedi soir, clôture du festival Crac à l'église Saint-Méry dans le 4e arrondissement. C'est une nuit blanche de 19h30 à 5h30 consacrée à la Novia. Alors la Novia, en fait, c'est un lieu de réflexion et d'expérimentation basé en Haute-Loire autour des musiques traditionnelles et expérimentales où travaillent des acteurs, des musiciens, des graphistes, des enseignants, une pluralité donc de profils qui crée un peu une cohérence esthétique très forte. Et pour finir ce week-end de folie culturelle, dimanche, on sera à la première édition du festival Pépite Club. C'est pour les enfants, mais bon, on est un peu des grands-enfants à Radio Campus. Au programme, des jeux, des concerts, une boum, un atelier de création sonore avec la radio Cousumain et une émission coproduite avec l'Armada Productions et Radio Campus Paris. C'est toute l'après-midi, dimanche, sur la Petite Ceinture, au niveau des Jardins du Ruisseau, dans le 18e arrondissement. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site radiocampusparis.org dans la chronique, dans la rubrique Agenda.
Voilà, et le podcast de l'émission également bientôt. Ben, écoute, si on ne savait pas quoi faire ce week-end, c'est chasse faite. Merci, Enza. Bon, il est déjà 19h58 et comme vous le savez, ce soir c'était la dernière de l'été de Radio Camping. Je remercie Erwan pour les interviews, Tiffany grâce à qui vous avez pu nous entendre, Quentin, Elsa pour la chronique et Elsa qui a aussi coordonné l'émission. Restez avec nous, tout de suite on retrouve une émission spéciale Nola Radio en direct du Shakirai dans le 18e arrondissement à l'occasion des 10 ans du collectif Curie Bavard. Je laisse le temps pour moi de vous dire que la matinale fera son grand retour lundi à 19h et demain à 7h6 on retrouvera toute l'équipe de Chablis Hebdo. Passez une bonne soirée au Shakirai, à bientôt.